bonsoir à tous. Merci de, voilà, d'être venus pour cette deuxième rencontre de notre cycle Le pouvoir des mots. Donc ce soir, on a le grand plaisir de recevoir Audrey Vernon pour cette deuxième masterclass Stand Up for Your Life. Audrey Vernon qui sera interviewée par Rosanna Di Vincenzo, que je remercie chaudement. Donc je rappelle que cette date, elle est programmée en partenariat avec la Nouvelle Scène. Voilà, je remercie Jessie Varin qui est parmi nous ce soir, puisque le spectacle Comment épouser un milliardaire et jouer à la Nouvelle Scène, mais ça, vous aurez l'occasion d'en parler. Donc voilà, c'est un cycle sur l'importance des mots, de la prise de parole comme un acte politique, et ça, je pense que Audrey aura l'occasion d'en parler très largement. Voilà, je voudrais juste quand même présenter Rosanna, qui nous fait la gentillesse d'accepter de modérer cette soirée. Donc Rosanna Di Vincenzo est journaliste à Télérama Sortir, je vais y arriver, depuis 5 ans. Est vraiment très spécialisée en tout ce qui est humour, stand-up et culture urbaine. Et donc, elle a vraiment chroniqué, tu me disais, la très, très, très longue liste des humoristes. Et entre autres, elle a beaucoup travaillé avec Blanche Gardin. Donc, un grand merci à Rosanna, à qui je passe la parole. Merci.
Merci Caroline, déjà, de nous avoir proposé cette masterclass. Moi, je suis très contente d'être ici. Merci à vous d'être venus. Ça fait plaisir de voir une salle avec un peu de monde, quand même. Donc, l'idée, en fait, de cette masterclass, évidemment, c'est de parler du travail d'Audrey. Audrey, que moi, je connais depuis quelques années maintenant, dont je suis le travail avec attention. On est là surtout pour parler d'un spectacle en particulier, même si peut-être vous la connaissez, car elle en a fait plusieurs, donc en l'occurrence Comment épouser un milliardaire qui date de 2009, mais il y en a eu beaucoup d'autres, Marx et Jenny en 2012 si je ne me trompe pas, Chagrin d'amour en 2014 et Fukushima, une légende japonaise en 2015. Audrey, tu as 38 ans, je me permets de te tutoyer. Tu viens de Marseille, je te présente un petit peu pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Tu as toujours été fascinée, on va dire, par le théâtre, la littérature, la poésie. Ta mère était une grande fan, une inconditionnelle de Victor Hugo. Tu as commencé le théâtre assez jeune, à l'école, au lycée. Ensuite, tu as fait l'ERAC à Cannes. On reprend un peu la formation. Donc, l'école, si je ne me trompe pas, l'école régionale d'acteurs de Cannes. Ensuite, le conservatoire de Toulon, puis le conservatoire du 10e. Et bizarrement, c'est la télé qui t'a lancé, entre guillemets, grâce à une audition pour Canal+. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, puis nous raconter un petit peu ton parcours, et puis surtout pour l'importance des mots, le pouvoir des mots, qui est le thème de cette masterclass. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, qui a toujours été passionnée par le théâtre? C'est une obsession d'enfance, en plus, si je ne me trompe pas.
Oui, alors bonsoir, merci d'être là. Je suis un peu intimidée parce que c'est un peu intimidant. Et donc, oui, j'ai commencé le théâtre vers 13-14 ans et j'ai commencé à me plonger dans les auteurs. Et donc, j'étais vraiment passionnée par les auteurs classiques comme Claudel, Molière, Racine, etc. Et donc, je pensais plutôt avoir une carrière, j'espérais avoir une carrière de comédienne classique. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque en sortant de l'école de théâtre, j'ai été engagée par Canal+ pour faire un petit module un peu débile qui s'appelait La séance au choix, où il fallait voter pour son film du dimanche soir. Et donc, moi, je faisais la speakerine, et c'était complètement idiot comme concept. Et comme je sortais du cours Florent, je faisais que réciter du Claudel. Donc, c'était assez bizarre, en fait. Quand j'ai passé l'audition, Dominique Farrugia, qui était à l'époque le directeur de la chaîne, a dit « C'est la chose la plus triste que j'ai vue en 25 ans de Canal+. »
Tu avais fait un personnage hyper sombre, hein, c'est ça, ouais. pour l'audition, tu voulais presque pas la voir, en fait, c'est ça?
Mais en fait, je voulais pas du tout la voir. Et c'est la veille, j'avais vu le film de Wes Anderson qui s'appelle « La famille Tenenbaum ». Et j'avais adoré le personnage de Margot et je me suis dit « Ah bah tiens, demain, j'ai une audition pour un truc que j'ai pas du tout envie de faire ». Et le pitch, c'était, il fallait faire fraîche, pétillante, c'était ça le concept. Et donc, j'avais fait Margot Tenenbaum. Et puis, bizarrement, ils m'ont rappelé. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et donc, j'ai repassé une deuxième audition. Et j'avais 21 ans. Et puis, j'étais serveuse dans sur une péniche, à exactement à l'emplacement de la nouvelle scène qui s'appelait Le Calife. J'étais serveuse là-bas, c'était mon métier. Et puis ils m'ont rappelé et tout ça, ils m'ont proposé le salaire. Et je me souviens, ils m'ont dit combien vous voulez être payé. Je leur dis, là actuellement, je suis payée 12 euros de l'heure. Et puis ils me disaient non, ça va être beaucoup plus. Et puis ils m'ont dit bon, c'est vous, c'était vers fin août. Et puis ils m'ont dit, vous commencez en direct début septembre, il faudra écrire des textes. Et j'ai dit d'accord, est-ce que je peux réfléchir? Et puis je suis rentrée chez moi et puis je dis à mes parents, oh, il y a Canal Plus qui veut m'engager. Et puis j'ai dit que je réfléchissais et tout. Et puis tout le monde autour de moi m'a dit, mais t'es folle en fait, c'est génial, il faut absolument le faire. Et puis donc du coup j'ai dit oui, c'était un truc en direct et je me suis fait virer au bout de 8 mois.
Ça a été un grand changement pour toi, cette période à Canal. Tu es quand même resté 10 ans, hein, c'est ça à peu près?
Ouais.
Ce dont on avait déjà parlé ensemble, toi, tu rêvais de jouer du Claudel, du Racine, des textes classiques. Tu passais ton temps à répéter dans des caves et tu étais très, très loin, on va dire, de l'actualité ou en tout cas de l'engagement, de cette conscience des inégalités sociales ou même du système politique. C'est finalement avec la télé que tu t'es confronté à ça. Et je pense qu'il y a eu une rencontre un peu déterminante qui était Paul Moreira, non ? Un journaliste d'investigation. Ouais. Puis même le fait même d'écrire des chroniques qui étaient en lien avec l'actu sur des programmes en direct, etc. C'est là que tu as vraiment... ça a été un déclencheur, en fait. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi ? Parce que tu as appris à écrire là-bas. Tu écrivais tout le temps, tu écrivais tous les jours. Donc tu as affiné ta plume. Mais tu as aussi appris à être confronté à ce système d'inégalité sociale très fort dans notre pays. Et c'est là que ça t'a frappé, quoi.
Oui, c'est vrai que l'année où j'étais en direct sur Canal, il y a eu deux événements assez importants. Il y a eu la Tchétchénie, la prise d'otage dans un théâtre. Et il y a eu aussi la mort de Ziad Ebouna, c'était pendant que je travaillais là-bas. Et en même temps, la guerre en Irak aussi. Et donc, en fait, j'étais très choquée par le traitement journalistique assez froid de tous ces événements. Moi, j'étais encore un peu niaise. Et donc, il y avait plein de trucs qui me faisaient pleurer et tout. Et puis, je disais aux gens qui présentaient le journal, mais il faut... Enfin, des trucs n'importe quoi. Je me souviens, une fois, j'avais appelé Michel Denisot parce qu'il y avait Zidane, je crois, qui passait. Et puis, je lui disais, il faut absolument qu'il prenne la défense des gens qui vont se faire tuer parce que c'était la prise de Fallujah, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, j'avais appelé Michel Denisot en disant, il faut absolument être solidaire et tout des gens. Et je pense qu'il m'a pris pour une folle. Et ce qui était pas loin d'être faux. Et en fait, j'avais pas trop à l'époque de filtre entre ma révolte et puis comme j'avais pas encore écrit Comment épouser un milliardaire et tous les autres spectacles, je savais pas trop comment lutter contre les inégalités. Et la mort de Ziad Ebouna, par exemple, je me suis rendu compte que moi j'avais la chance d'avoir une minute de parole publique quasiment quotidienne et que j'avais pas grand chose à dire, alors que les gens à qui c'était arrivé étaient obligés, eux, pour exprimer leur vérité, de brûler des voitures. Et pour dire que ça ne s'était pas passé comme ça, l'histoire, ils étaient obligés, enfin, ils n'avaient pas de moyens d'expression. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je n'avais pas le droit de monter sur scène pour ne rien dire, etc. Et donc, c'est là que j'ai un peu commencé à travailler sur le sujet.
Donc, tu as commencé par quoi, alors, du coup? Parce que tu as eu déjà, tu as écrit un autre spectacle avant Le Milliardaire, qui s'appelle Le Spectacle le plus drôle du monde, qui traitait de en fait, l'enfer médiatique, on va dire, de ton expérience à la télévision. Tu l'as pas beaucoup tourné,
Je l'ai joué pendant un an, et en fait, c'était un spectacle, ça s'appelait Le Spectacle le plus drôle du monde, et je pensais que les gens allaient comprendre que c'était pas un spectacle drôle. Et je prenais les gens en otage et tout ça dans la salle, en hommage au truc de Beslan et tout. C'était super conceptuel. Les gens partaient pendant le spectacle. Et mon régisseur, moi, j'ai aucune répartie sur scène. Donc, en fait, il voyait les gens partir. Et à la fin du spectacle, il disait « Mais quand il y a des gens qui partent, il faut que tu dises quelque chose et tout. » Et moi, juste, je laissais un gros blanc. Je regardais les gens partir et j'essayais de reprendre là où j'en étais, en étant complètement désespérée. Et c'est là que j'ai commencé à beaucoup boire.
Tu buvais de la vodka sur scène pour lutter contre le trac,
c'est
ça? Avant
le spectacle, ouais. Je buvais beaucoup. Et
on n'a pas de vodka ce soir pour lutter contre le stress de cette masterclass, par contre.
Ouais, je buvais beaucoup. Et puis, en fait, mais surtout dans les affiches, dans les journaux, j'avais écrit « c'est un spectacle très drôle où je fais plein de personnages et tout ». Et évidemment, une fois que le spectacle était commencé, je disais que je n'allais pas faire les personnages parce que le producteur était parti. Et je partais dans un truc super conceptuel et très, très chiant. Et voilà, ce spectacle n'a pas eu énormément de succès.
D'accord. Tu t'es mise à écrire ensuite sur l'objet de notre masterclass ce soir, qui est donc comment épouser un milliardaire et donc les milliardaires, qui était un concept quasi inconnu en 2009. T'as mis un an et demi, deux ans à l'écrire. Je crois me rappeler que tu as eu le déclic de ce spectacle en faisant une vanne pendant l'une de tes chroniques où tu disais c'est un numéro non surtaxé pour les pauvres, et tu t'es rendu compte que dire le mot pauvre à la télévision, c'était un peu problématique. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'en tout cas le déclic, comment il est né ce spectacle en tout cas?
Ah, c'est marrant, j'ai raconté des trucs super vieux.
Tu m'as dit
même
des trucs hyper, hyper pertinents déjà à l'époque.
Oui, c'est vrai que donc, c'est quand je faisais ce truc stupide qui s'appelait la séance au choix où les gens devaient voter pour leur film du dimanche soir, le numéro n'était pas surtaxé. Et un jour à la télévision, j'ai dit un numéro non surtaxé pour les pauvres, et puis je me suis fait convoquer. Et on m'a dit, ah non, mais t'as pas le droit de dire pour les pauvres, parce que pour les pauvres, c'est clivant. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même. Bon, ah, ok. Et donc, je me suis rendu compte que le mot pauvre était un peu sous-utilisé. Et donc, j'ai commencé à écrire là. J'ai eu envie d'écrire sur les inégalités. Puis c'était le moment au début où, dans Paris, on commençait un peu à avoir des gens qui fouillaient dans les poubelles, des retraités. Enfin, j'ai commencé vers 2008-2009 à trouver qu'il y avait une hausse des inégalités. Alors là, maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est juste une blague. Mais. Et donc, j'ai eu envie d'écrire sur les riches et les pauvres. Et vraiment, ce mot riche-pauvre, ça me plaisait bien. Et c'est vrai que ce n'était pas très, très utilisé à l'époque. Par exemple, le mot milliardaire n'était jamais utilisé. En tout cas, pas dans le grand public. Bernard Arnault n'était pas connu. Parce que c'était avant qu'il veuille se casser en Belgique. Donc avant ça, Liliane Bettencourt n'était pas connue non plus parce qu'elle n'était pas encore sortie avec François-Marie Bagné. Donc, c'était vraiment une époque où, quand je disais le mot milliardaire, les gens ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. Et alors, aujourd'hui, ça a bien changé. D'ailleurs, j'étais très étonnée suite à l'incendie de Notre-Dame, parce qu'il y a 3-4 ans, je pense que moi, j'aurais fait un post en disant « Ouais, c'est dégueulasse, les milliardaires, ils défiscalisent, ils filent de la thune à Notre-Dame et tout ça. » Et puis là, j'ai rien eu à faire. Je voyais des posts partout, des gens qui critiquaient les milliardaires. J'étais « Ouais, c'est cool !» Et donc, voilà, vraiment, et c'était marrant parce que si il y a 10 ans, les gens disaient que c'était un peu excessif ou un peu caricatural, le spectacle. Et là, aujourd'hui, les gens, à la fin, ils viennent me voir en disant « Vous n'allez pas assez loin ».
Ouais, la perception qu'on a de ce problème-là a vraiment évolué en 10 ans. En 2009, quand tu commences à écrire ce spectacle, t'as envie de raconter quoi exactement et comment tu t'y prends? Parce que tu t'es énormément documenté, que ce soit sur des expertises scientifiques, l'économie n'était pas aussi vulgarisée qu'elle l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas encore le succès d'un Thomas Piketty, par exemple. Enfin, on en parlait peut-être beaucoup moins aussi. Comment est-ce qu'on écrit sur des milliardaires? Comment est-ce qu'on arrive à rendre ce sujet drôle, déjà? Parce qu'à la base, c'est pas forcément très marrant. Comment tu t'y es prise?
Alors, j'ai lu Le Figaro Économie, j'ai lu Challenge. Et j'allais beaucoup aussi... À l'époque, il y avait le Virgin Megastore, j'habitais pas très loin. Et donc, j'allais piquer des livres d'économie au moins un et j'allais les lire au café au troisième étage. Il y avait un ascenseur direct. Donc, je lisais plein de livres d'économie, beaucoup de biographies de Bill Gates, de Warren Buffett et tout ça. Et au début, ça ressemblait vraiment à une mauvaise version d'Arlette Laguiller. C'était vraiment genre, ah, les inégalités, c'est vraiment dégueulasse. Ça a duré assez longtemps. Je l'ai fait lire un peu autour de moi et il y a plein de gens qui m'ont dit... Non, ça n'a pas de drôle. C'est un peu chiant. Je me souviens, il y avait 10 pages sur Tolstoï. Et parce que Tolstoï, après 1881, il a arrêté d'écrire des romans parce qu'il trouvait que c'était un divertissement bourgeois. Et il s'est mis à faire que de la propagande politique et à essayer d'éduquer les pauvres et d'éduquer les enfants, etc. Et donc, j'ai eu une espèce de crise d'amour pour Tolstoï. Et j'avais écrit dans le spectacle, il y avait 10 pages sur la vie quotidienne dans la famille de Tolstoï, avec des vannes qui n'étaient compréhensibles que par peut-être 40 personnes dans le monde. Et donc, je l'ai fait lire. Et puis, on m'a dit, ah non, déjà, il faut que tu vires le truc sur Tolstoï. Et puis là, on dirait trop Arlette Laguiller, ça ne va pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je les aime plutôt que je les critique pour que ça soit un peu marrant.
On peut peut-être, puisque peut-être ici... tout le monde n'a pas vu ce très très bon spectacle qui se joue encore d'ailleurs en ce moment à la Nouvelle Scène, avec une autre comédienne d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Lancez la première vidéo qui va vous donner une petite idée de comment on doit faire pour épouser un milliardaire, et on parlera donc de l'extrait vidéo juste après.
Bon, je ne peux pas vous apprendre à reconnaître un milliardaire dans une soirée, il n'y a pas vraiment de signes. Par contre, je peux vous apprendre à reconnaître un pauvre. S'il porte sur lui des marques que vous reconnaissez, le petit cheval de Ralph Lauren, une Rolex, une Porsche, c'est un pauvre. Un milliardaire n'a pas de signe extérieur de richesse, en tout cas pas sur lui. Abramovitch, le milliardaire russe, son signe extérieur de richesse, c'est Chelsea. Le club de football anglais. Bon. Je vous ai fait des fiches. Bon, ça, les gars, c'est la base, hein. Carlos Slim, élu deuxième homme le plus riche du monde, il a 15% du Mexique. Je vous ai mis un beau pour pas vous décourager. Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. Il est bien. Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, le franc, et en ce moment, il adore l'euro. Qui est-ce qui aime le Nutella? Eh ben, c'est pour elle. Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferrero, est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. C'est triste. Il a fait exactement le cadeau que je voulais. 40 milliards. Li Ka-shing, 9e, c'est le propriétaire de Mariono. Ye Shanghai, 888e. Pour les Chinois, faut être un petit peu physionomiste. Parce qu'on peut croire s'endormir avec Li Ka-shing et se réveiller avec les Shanghai. C'est un petit peu contrariant. Attention pour les hommes. Ta-da ! Ça, c'est Jacqueline Mars de Mars, de 1 mars et ça repart. C'est à elle. Elle est super sympa. Et elle a un petit frère qui s'appelle Junior. Bon, il a 84 ans. Alors, plus belle progression de l'année, grâce à qui? Grâce à nous. Zara Amancio Ortega, 2e fortune mondiale. Quelqu'un parle espagnol? Il vient juste de perdre sa femme. Ah voilà, tout de suite, bim, un pauvre. Ah, vous foncez, c'est dingue ce déterminisme social. Hugh Grant, faux ami, vous le voyez, vous lui parlez même pas, vous lui filez 10 balles, ok? Attention, homonyme. Hugh Grant, le PDG de Monsanto. Ah, oh, voilà, tout de suite, bobo de gauche. Ça, c'est le Hugh Grant qu'on aime. Il a eu une super bonne idée, il a breveté les pommes. Ben, fallait juste y penser.
Donc ça, c'est un extrait qui a été tourné sur la soirée Génération France Inter à la salle Pleyel. Donc c'était quand même un... beau pied de nez à ces chers milliardaires que tu aimes tant, puisque c'est quand même la salle qui appartient à Marc Ladré de la Charrière, que tu avais déjà rencontré, je crois, sur un plateau télé avec Frédéric Taddeï. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'à la fin de son passage, elle dit qu'elle reviendra certainement plus jamais jouer dans cette salle après ce passage. Là, tu décris en fait la liste de Forbes, donc des personnes les plus riches de la planète. Toi, quand tu commences à écrire ce spectacle-là et que tu as face à toi ces chiffres-là, je ne sais pas s'il y a des comédiens ce soir dans la salle, mais comment on fait pour transformer, je ne sais pas moi, les pages saumon du Figaro, la liste de Forbes en un sketch un peu marrant avec une fille en robe de mariée sur scène qui vient donner des conseils pour pouvoir les épouser, ces milliardaires-là?
Ça a été la chose la plus difficile, c'était de trouver les blagues sur un sujet aussi triste. Et déjà, il y a des trucs assez drôles. Par exemple, Warren Buffett, il est assez marrant. Il dit, il y a bien eu une lutte des classes ces 20 dernières années, c'est ma classe qui a gagné. Il a dit, je dois ma fortune pour 90% à la, pour 10% à la chance et 90% au travail des autres.
Ils ont des bonnes punchlines, finalement.
Ouais, finalement, il y a des choses. Et c'est marrant parce qu'une fois, j'ai rencontré Pino au théâtre et on me l'a présenté. Et donc, je lui ai dit, ah, bonjour. Je savais pas trop quoi lui dire. Je lui ai dit, ah, ben, je fais un spectacle sur vous. Et il me dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, je fais un spectacle sur les milliardaires et la liste de Forbes. Et là, il m'a répondu, ah, la liste de Forbes, je dois pas être très bien classée. Et il était 33e à l'époque. Et j'ai pas su quoi lui dire. Et donc, finalement, il y a des choses... par exemple, vous voyez, Warren Buffett, il avait appelé son jet l'injustifiable parce qu'il estimait que c'était une dépense inutile. Et donc, il l'a mis en location pour compenser les jours où il ne l'utilisait pas. Il y avait ce truc aussi un peu stupide qui s'appelle The Giving Pledge, qui est la promesse de donner. Donc, tous les milliardaires ont signé ce truc, disant qu'à leur mort, ils vont soi-disant donner 50% de leur fortune à l'association de Bill Gates, qui est une association à but non lucratif, enfin, qui est une grosse arnaque, en fait. Et donc, cette fondation, elle a 30 milliards. Elle investit dans des grandes entreprises comme Total, Nokia, des trucs qui polluent, qui tuent les enfants africains, etc. Et avec les maigres intérêts qu'ils récoltent, ils les reversent à des associations qui promeuvent, par exemple, les OGM, ou qui font vacciner les enfants africains avec les vaccins de Bill Gates, qui lui permettent de tester le vaccin sur les enfants africains et de commercialiser le brevet en Occident, parce que comme il a un panel de tests beaucoup plus important que d'autres labos, ça lui permet d'être le premier sur certains vaccins. Enfin, voilà, donc c'est vrai que des sujets comme ça, c'est assez marrant.
C'est tellement absurde, en fait, que ça en devient drôle, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis, du coup, ton discours et cette robe de mariée, je crois qu'elle a été assez déterminante, en fait, dans on va dire, de trouver la drôlerie, en fait, sur scène. Ça crée un décalage. Il y a ce côté girly, alors qu'en fait, ce que tu racontes, c'est hyper documenté, très factuel et extrêmement précis, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que le spectacle en lui-même est devenu drôle. C'est ce décalage entre cette fille girly qui est là et qui, en plus, c'est son dernier soir avant sa nuit de noces ou avant son mariage. Elle ne remontera plus sur scène après. Enfin, et elle arrive en robe de mariée et elle donne comme ça des conseils à l'Assemblée pour pouvoir se trouver le milliardaire qui reste et qui serait encore célibataire.
Oui, c'est vrai que la robe de mariée a été déterminante. D'ailleurs, j'habitais en face d'un magasin de robe de mariée. Je trouvais ça super beau. Et un jour, je me suis dit, ah, j'aimerais bien être en robe de mariée sur scène. Et ça a fait tilt. Et j'ai cumulé les trucs. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de les aimer plutôt que de les critiquer. Et du coup, ça rendait le propos un peu moins... le capitalisme, c'est nul. Ce qui était important quand même, de faire moins...
Oui, c'est bien de le rappeler quand même malgré tout, mais c'est bien de prendre aussi un peu de distance, quoi, du coup. Enfin,
je pense c'était plus drôle avec la robe de mariée que sans.
Ouais.
Et puis, voilà.
Ok. Ce spectacle, tu l'as joué énormément. Il a 10 ans cette année. Combien de représentations aujourd'hui? Parce qu'il y a encore plusieurs dates où toi, tu joues ce rôle et puis tu vas le passer à une autre comédienne qui a déjà commencé les représentations à la nouvelle scène. Mais...
Plus de 500. On a arrêté de compter à 500. On a fêté la 500e en janvier, il y a un an. Donc voilà, je sais, j'ai pas compté, mais plus de 500.
D'accord. Tu l'as joué aussi dans des endroits très particuliers, et notamment pour des ouvriers ou des grévistes, dans pas mal de lieux en lutte. Pas que ce spectacle-là, hein, tu as joué aussi d'autres de tes spectacles, notamment...
Tu leur as imposé le spectacle sur Marx aussi.
Voilà, Marx et Jenny, sur l'amitié entre Karl Marx et Engels. Mais en tout cas, le milliardaire a été un peu un espèce d'étendard d'une lutte ouvrière entre, on va dire, 2011 et 2013. Tu l'as joué chez les Petroplus, ArcelorMittal, Gandrange, Florange. Pourquoi c'était important pour toi d'aller jouer dans ces endroits-là, et quels ont été, quels souvenirs tu en gardes, quelles étaient les réactions?
La première fois, je parlais dans le spectacle de Mittal, et j'ai un copain qui habitait dans cette région, et donc il m'a dit « Ah, ce serait super que tu viennes le jouer aux anciens salariés de Mittal à Rosslange ». Et c'était la première fois que je partais en tournée, et donc j'ai été jouer pour... Gandrange venait de fermer, Florange n'était pas encore fermée, et donc c'est la première fois que je jouais devant des vrais pauvres. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait, et c'était assez émouvant forcément. En plus, c'était dans une salle municipale un peu de l'époque, qui datait de l'époque patronale. Je sais plus comment ça, on s'en appelait ça, mais ouais, mais quand les patrons étaient un peu des papas là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, paternaliste. Et ben, ça datait de cette époque, et c'était une salle qui était fermée depuis très longtemps et qu'ils ont réouverte. Et donc, il y avait des gens qui me disaient qu'ils s'étaient rencontrés dans cet endroit, qu'ils s'étaient mariés, enfin bref. Et donc, c'était très, très émouvant, la première fois de jouer pour les ex-salariés de Gandrange. À cette occasion, je suis allée visiter Gandrange. Et après, ils m'ont réinvité. Donc, j'ai été jouer à Florange. Je me souviens plus des noms, mais 3-4 noms avec des anges, et notamment j'ai vu la fermeture de Florange, et ça c'était assez émouvant parce que je suis allée jouer là-bas, et puis j'ai appelé la CGT ArcelorMittal en leur disant je viens jouer, est-ce que je pourrais visiter Florange avant que ça ferme? Et donc ils m'ont dit mais non, c'est pas possible, c'est un lieu privé, on peut pas visiter. Même François Hollande n'avait pas eu le droit de rentrer. Quand on le voyait, il était devant à chaque fois. Et je leur ai dit, ah, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment voir l'intérieur. Parce que ça tournait encore, il y avait encore le bruit des hauts fourneaux, etc. Et donc, dans l'après-midi, ils m'ont appelé au théâtre en disant, c'est bon, on a un créneau, viens. Ils m'ont caché dans la voiture et ils m'ont fait rentrer. Et j'ai des photos d'ailleurs en robe de mariée sur les tas de coques. Je ne sais plus, il faut que je prononce bien parce qu'il y a... une double prononciation qui est... Ils m'ont dit que c'était... Je me souviens plus, bref. Et donc, ils m'ont montré. Et le soir, je suis allée jouer. Et j'avais la robe de mariée qui était pleine, qui était toute noire. En fait, tout le bas était noir de ce charbon. Et j'ai trouvé ça super émouvant. Et quelques jours après, Florange a fermé. Et je suis retournée jouer pour la fermeture de Florange un 1er mai. Et c'est vrai que de voir la destruction en vrai... Enfin, l'impact horrible de ces milliardaires sur les gens, c'est terrifiant parce que ce qu'ils m'expliquaient, c'est que eux, ils étaient des métallurgistes et ils veulent pas faire autre chose, ils veulent pas. Et finalement, Mittal les prive de leur métier. En plus, ils m'ont expliqué des choses que j'aurais pas pu comprendre si j'étais pas allée. Par exemple, en fermant, ils gagnent de l'argent parce qu'ils récupèrent des droits à polluer. Donc, en plus, il se fait de la thune grâce à la fermeture. Il gagne de l'argent vraiment en fermant. Et il récupère les brevets aussi, les brevets de haute technologie qui ont été fabriqués par des centaines d'années de recherche et développement français. Et voir ça en vrai, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, finalement.
C'est une expérience humaine forte aussi, puisque
ouais,
toi qui étais obsédé par les inégalités, comme tu le dis, puis d'aller dans ces lieux de lutte où les gens, c'est à la vie, à la mort, quoi. Enfin, ouais. Je crois qu'il y a il y a plusieurs lieux où tu es allé jouer, mais notamment une belle expérience avec les Fralib contre Unilever, où Donc ça s'est bien terminé puisqu'ils ont pu récupérer leur usine et créer leur propre marque. C'est 1336, je crois. Il y a quelque chose d'hyper, je sais pas, hyper fort, quoi. Comment tu l'as vécu finalement, même au Virgin Megastore où t'as écrit le spectacle et t'es la dernière personne à avoir été sur place jouer le milliardaire.
J'ai joué là où Madonna a joué quand même. Les Fralips, c'était assez marrant parce qu'en fait, j'ai vu un petit entrefilet dans Libération un matin et il y avait marqué Fralib, Unilever, Tellipton, délocalisation, machin et tout. Et je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. Je passais chez Tadi 2 jours après, je crois. Et je me suis dit, ça, c'est un exemple hyper intéressant parce que le téléphone avait été créé en Provence et ils voulaient délocaliser en Pologne et tout mettre sous la marque Lipton, etc., une multinationale et tout. Je me suis dit, c'est un exemple super intéressant de ce que font les milliardaires. Et comme je passe chez Tadi, si je peux, j'en parlerai. Et donc, du coup, j'ai appelé, j'ai cherché sur Internet le numéro de l'usine et j'ai appelé et j'ai demandé à parler à quelqu'un de la CGT, enfin, de ce qu'il y avait. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés et ils m'ont expliqué la situation, mais je leur ai dit, ah ben, si jamais j'arrive à le placer, je dirai un mot sur votre situation. Et suite à ça, ils m'ont rappelé et je suis allée jouer pour eux début juillet, au tout début de la lutte. En fait, l'usine n'était pas encore, fermée. Ils n'occupaient pas encore. Et donc, ils m'ont accueilli, ils m'ont offert une espèce de pique-nique dans l'usine. Une sorte de banquet, c'était assez incroyable. Je suis allée jouer le soir pour eux. La mairie de Marseille leur avait donné un théâtre et donc j'ai joué le soir pour eux. Il y avait des gens qui pleuraient. C'était assez dingue. Et puis quelques jours après, ils ont commencé à occuper l'usine et je suis retournée jouer. Je jouais à Aubagne un jour et puis ils m'ont dit, ah ben justement, ce week-end, on fait un truc de lutte. Est-ce que tu veux venir? Et donc, j'ai dit oui. Et c'est là que j'ai créé Marx et Jenny. Marx et Jenny, c'est un spectacle sur la correspondance entre Marx et Engels. Ça peut être assez chiant. Et en fait, je leur ai imposé ça un matin. Alors, j'ai joué dans l'usine sur des palettes. Et il y a, je crois, 400 cégétistes du Nord qui ont débarqué, qui sont mis à chanter l'international dans l'usine. Les gens pleuraient. C'était assez, assez fou. Et après, donc j'ai vécu ce moment-là qui était très beau. On est allé à Notre-Dame-de-la-Garde mettre une grande banderole, Fralib vivra. Et donc, en fait, c'est des choses que j'ai vécues avec eux, alors que normalement, je n'étais pas censée les vivre avec eux. C'était juste le hasard du calendrier qui fait que j'étais là la veille et donc que j'ai joué. Et puis, j'ai joué 3 fois, je crois, pour eux pendant la lutte. Et évidemment, quand ils ont gagné, donc en 2013, ils m'ont demandé de venir jouer pour la victoire. Et ça, c'était assez... C'était chouette.
C'est important de faire résonner les mots de ton spectacle sur ces inégalités-là, sur ces milliardaires, dans des endroits comme ça. Est-ce que c'est parce que tu dis que c'est pédagogique pour toi d'écrire des spectacles comme ça, puisque tu apprends des choses, tu vas au bout de ta passion, mais c'est du militantisme. Enfin,
ouais.
Tout le monde ne le fait pas.
Je sais pas trop. En fait, déjà, j'étais plus jeune et puis j'aimais bien jouer tout le temps. Et je trouvais que c'était une grande chance de jouer dans des endroits comme ça parce que c'est super beau, les usines. Donc, en fait, moi, je le prenais plutôt comme une chance de... Pas vraiment du militantisme. Puis surtout, au début, c'était un peu le hasard qui fait que j'ai rencontré des gens et qui m'ont demandé de venir jouer. Donc, je le faisais pas trop. Et après, quand j'ai senti que les journalistes, beaucoup, commençaient à me parler beaucoup de ça... J'ai décidé d'arrêter parce que je voulais pas que ça devienne un truc genre...
Ça t'a desservi, tu penses, non?
Non, pas du tout, mais je voulais pas que ça fasse genre... je me sers d'eux pour...
Tu voulais pas profiter de la situation, quoi. Tu voulais qu'on les mette eux en avant et pas forcément...
Ouais, après, ça devenait un peu trop systématique. J'avais l'impression de... Enfin, ça m'a mis mal à l'aise, donc j'ai fait les Jeannettes aussi, qui est une fabrique de Madeleine, qui ont gagné aussi, Petro Plus, et puis...
T'as terminé par le Virgin... Où tu as joué
la fermeture du Megastore et ouais, puis après la victoire de Fralib.
D'accord.
Et puis maintenant, Georgia, qui reprend Comment épouser un milliardaire, a repris le flambeau puisqu'elle est allée jouer pour Ford.
D'accord.
On en parlera. Je l'ai envoyé, moi j'y suis pas allée.
Tu lui as transmis le virus de la lutte.
c'est vrai que c'est des moments qui sont quand même assez forts de jouer devant les premiers concernés. Parce qu'après, Au début, il n'y avait que les usines qui étaient concernées par le pillage des milliardaires. Et c'est pour ça que ça m'avait fait assez rigoler quand Libé s'était fait racheter par un milliardaire. Et puis, ça les avait beaucoup choqués. Ils avaient fait des unes genre « Nous sommes un journal », blablabla et tout. Comme si les autres, c'était pas des... Enfin, comme si c'était pas normal que Libé se fasse racheter. Et je me suis dit, en fait, les journaux n'ont pas été assez solidaires des premières victimes des milliardaires. Et maintenant, ça leur arrive à eux. Et finalement, c'est bien fait, quoi. Mais parce que je me souviens aussi, les journalistes, ils disent « Mais nous, on n'est pas une fabrique de boulons ». Et je me disais « Mais quel mépris, quoi ». Et alors, pourquoi est-ce que... Enfin, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Disons que ce que les milliardaires ont fait dans les usines et ce qu'ils ont fait sur des vrais pauvres, ils se sont mis à le faire après sur des riches aussi. Ouais. Et donc, et là, les riches étaient un peu choqués. Oui, et même, ça arrivait à Canal+, aussi.
Oui, avec Bolloré.
Ben ouais. J'avais envie de dire bien fait à tous ceux qui n'avaient pas soutenu... Non, mais c'est méchant. Non, mais Bolloré, c'est un bon exemple de... Et surtout, c'est un bon exemple des journalistes qui tombent des nues.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les journalistes, pas tous évidemment, mais il y en a plein qui ont été surpris par le traitement inhumain que leur ont infligé les milliardaires. Et j'ai envie de dire, il y avait des précédents. Vous aviez qu'à être choqués aussi quand ça arrivait à des gens, à des pauvres, quoi.
Mais parce que la perception, en fait, sur cette thématique-là, elle a énormément évolué en 10 ans. Quand t'as commencé avec ce spectacle en 2009, on t'a dit non mais un spectacle sur l'économie, de toute façon ça n'intéressera personne. Il se trouve que juste après il y a eu la crise des subprimes, donc tout d'un coup t'es devenu mainstream avec ce spectacle, et aujourd'hui il est plus que jamais dans l'actualité. Quel regard tu portes sur ces 10 ans de comment épouser un milliardaire et de l'évolution de ces inégalités sociales qui sont toujours plus difficiles à observer, quoi.
Bah, quand j'ai commencé, il y avait 793 milliardaires et là aujourd'hui il y en a 2154, c'est ça ? 2153, mais c'est maintenant Georgia est plus à jour sur les chiffres que moi. Et donc, et leur fortune a cru, je crois, de 40%. Ils ont atteint, le dernier rapport d'Oxfam dit qu'ils ont maintenant la moitié de la richesse mondiale. L'année dernière, ils ont récupéré 80% de la plus-value et des richesses qui ont été fabriquées. Donc, c'est vrai que ça s'est beaucoup, beaucoup aggravé. Et il est sorti en livre aussi il y a 3 ans.
En 2015.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a été adapté. Ouais. Il a été adapté en Corée, au Japon. Enfin, le livre est sorti en Corée, au Japon, en Allemagne, en Italie. Et
il a été traduit en 6 langues, hein, c'est
ouais.
ça
mmh.
Et en Grèce aussi.
Oui, en Grèce. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, un truc assez triste, c'est que c'est pas normal qu'un spectacle pareil soit compréhensible des Coréens. C'est vraiment bizarre quand même qu'on ait les mêmes milliardaires qu'eux, qu'on ait les mêmes préoccupations qu'eux. Et les Coréens, il y a eu 2 Coréens qui sont venus, un metteur en scène et puis un producteur, qui sont venus me voir à Chartres, dans une salle, parce qu'ils veulent adapter le spectacle en Corée. Et c'était assez marrant, parce que je me disais, mais c'est triste, c'est vraiment triste que ce soit qu'il y ait maintenant qu'ils aient un peu uniformisé le monde, au point que les Coréens, ils voient très bien de quoi je parle, etc. Moi, le seul truc qui était rigolo, c'était qu'ils venaient à Paris pour voir le spectacle et ils m'ont demandé si on pouvait aller à Chartres en avion. Ouais, je trouvais ça mignon.
Donc, comme
ils comprenaient rien. Non. Ils étaient dans la salle, je me disais, oh, c'est fou. Alors, ils ne parlent pas du tout anglais, les Coréens. Bon, le spectacle était en français, donc c'était... mais quand on a discuté avant et tout, ils ne parlent pas du... Bon, bref.
Il a beaucoup évolué, du coup, ce spectacle en 10 ans. J'imagine qu'il y a des milliardaires nouveaux qui sont arrivés dans la liste. Il y a des choses que tu as retirées. Enfin, comment tu as adapté le texte ?
Mark Zuckerberg, par exemple, j'ai l'impression d'être super vieille parce que Mark Zuckerberg, je l'ai connu l'année où il est rentré dans la liste. C'est-à-dire qu'un an avant, il n'était pas milliardaire et puis il est devenu milliardaire alors que je jouais déjà le spectacle. J'ai l'impression d'être vraiment très, très vieille. Ouais, Mark Zuckerberg, il est rentré dans la liste en 2010. Et je ne sais plus, il était dans les 200. Et là, cette année, je crois qu'il est 6e ou 4e, je ne sais plus. Et au niveau du top 10, ça n'a pas tellement changé. Au niveau du principe, en fait, ça n'a pas du tout changé même. C'est-à-dire le principe, on exploite les pauvres, on devient très très riche. Ce qui a
c'est
changé...
C'est consternant finalement. Enfin...
Ouais. le principe n'a pas changé. Enfin, en fait, le texte du spectacle n'a pas trop changé, c'est juste les noms des gens. Qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant en 10 ans? L'apparition de tous les milliardaires de Facebook et tout ça. Et puis aussi l'arnaque qui s'est développée avec les fondations et puis l'évasion fiscale qui s'est aggravée aussi. Parce que la fondation de Bill Gates, par exemple, elle date de 2010. Donc, je l'ai vue arriver aussi. Et dès le début, on voyait bien que c'était une grosse arnaque. C'était marrant parce qu'il y a des choses qui sont apparues comme The Giving Pledge. Je jouais déjà le spectacle et donc quand ils ont fait The Giving Pledge, j'ai été hyper choquée. Et il y a des choses qui n'étaient pas là. En fait, ça n'a fait que s'aggraver. Et puis c'est marrant parce que Macron, par exemple, quand il était ministre de l'économie, c'est un des premiers à avoir dit « j'ai envie que les jeunes rêvent de devenir milliardaires ». Et des choses comme ça. Et comme à cette époque, j'avais un peu de promo, c'était intéressant parce que les gens me posaient la question. Et c'est vrai qu'on a vu arriver à cette époque-là un peu des présidents aussi qui sont devenus en faveur des milliardaires. Ce qui n'était pas le cas au début.
Tu as beaucoup été en plateau télé, justement, parler de ces sujets-là. Tu es devenue un peu une porte-parole. Enfin, comment tu l'as... Parce que tu es passée plusieurs fois chez Tadi avec des experts. On te fait venir pour parler de ton spectacle d'économie de manière très poussée. Tu es devenue un peu une spécialiste, finalement, avec ce spectacle.
Mais oui, j'ai même été convoquée par Challenge pour un déjeuner et ils m'ont posé des questions sur les milliardaires. J'étais super fière.
Surtout que tu les avais utilisées pour écrire ton spectacle, en plus.
Ouais. Et puis je pose avec avec un numéro de Challenge sur l'affiche. Et les plateaux télé, c'était assez marrant parce que c'est souvent avec des vieux experts masculins, hyper paternalistes. Et donc, c'est quand même des grandes expériences de mépris et de... C'est un peu traumatisant. J'ai beaucoup bu aussi. Chez Tadi, j'ai beaucoup bu.
Je pense que tout le monde buvait beaucoup chez Tadi, non?
Je sais pas, mais moi vraiment j'ai eu du mal à tenir. Et surtout, il parle beaucoup de rien en fait. Et donc c'est un peu déstabilisant parce que ils sont pas vraiment impliqués, ils s'en foutent un peu et ils parlent de ça comme ils parleraient d'autre chose. Et c'est vrai que quand on est un peu habité par le sujet, c'est très déstabilisant. Et je me souviens d'un truc avec Luc Ferry aussi. Chez Ardisson, où il m'a dit « Aujourd'hui, plus personne ne vend ses organes », etc. Et il parlait vraiment des pauvres de façon... Enfin, sans aucune connexion avec rien, quoi. Et ça, c'est étrange, parce que c'est des gens qui ont la parole publique en permanence, et on se dit « c'est normal que la population soit pas informée et soit pas du tout au courant de la réalité de ce qui se passe, parce que ces types-là, ces vieux types, on les invite tout le temps, et malheureusement, ils font beaucoup de mal parce qu'ils disent des contre-vérités en permanence. Et par exemple, quand j'ai la petite expérience à France Inter que j'ai eue aussi.
Oui, et une chronique à toi qui a été censurée, c'est ça?
Ouais. Et le jour où j'ai fait la chronique sur Bill Gates, le journaliste à la fin du truc, alors que je faisais sur le fait que Bill Gates était un arnaqueur, etc., le journaliste à la fin me dit « Oui, mais quand même, Bill Gates, il paye des impôts. » Et donc, en fait, je me suis dit, mais ça
décrédibilise totalement toute ta chronique, en fait, ouais. En fin de compte.
Il a dit ça de façon complètement légère et puis anodine. Mais je me suis dit, c'est pas normal parce que le public qui écoute France Inter, évidemment, a plus confiance dans le journaliste qu'en moi. Et donc, il l'écoute tous les matins, ils sont habitués à lui, ils se disent que lui, il a fait des études, pas moi. Et donc, ils arrivent à complètement décrédibiliser ce qu'on raconte. Mmh.
Ce spectacle, il a été joué dans toutes les salles possibles, imaginables. C'était important aussi d'aller, j'aime pas dire vers un public qui n'a pas accès au théâtre, mais quand tu l'as commencé, tu l'as joué au Panamart Café, que peut-être certains d'entre vous ici connaissent, mais qui est un comédie club dans le 11e, qui est très spécialisé stand-up et dont a priori pas le public cible pour un spectacle très écrit, aussi drôle soit-il. C'est important d'aller le jouer partout pour que justement tout le monde puisse entendre ce texte-là.
Oui, en fait, j'avais pas du tout envie de jouer pour un public genre public Télérama, tout ça.
Ah bon ? Merci.
Non, mais au départ, quand j'ai écrit mon premier spectacle, j'avais pas envie de jouer devant des gens qui étaient déjà convaincus ou qui n'étaient pas concernés. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la forme du stand-up, parce que je me suis dit, au moins, je vais jouer pour un public populaire qui va pas forcément au théâtre. J'avais pas envie de jouer à la colline. Et puis, bon, de toute façon, j'aurais jamais réussi parce que c'est beaucoup trop de travail et de dossiers et de subventions, j'en sais rien. Enfin, bref, j'aurais jamais réussi. Mais oui, pour moi, c'était très important de jouer devant un public populaire et de...
Et, ouais, voilà. Et l'humour est aussi un des meilleurs vecteurs de communication, en tout cas de pour véhiculer des messages forts, moi j'ai l'impression. Enfin, on le voit aujourd'hui, les humoristes en plus sont quand même plébiscités et invités un peu partout pour réagir à l'actualité, etc. Enfin, toi, tu l'as senti ça, le fait de en allant jouer comme ça dans des salles estampillées humour, du coup, de pouvoir faire passer ton message de manière plus facilement.
Je sais pas. En tout cas, c'est plus facile d'avoir accès à la scène dans ce... Parce que les spectacles du subventionné, par exemple, ils se jouent en moyenne 5 fois, je crois.
Ouais.
Là, c'est vrai que c'est un moyen de... On peut jouer partout, c'est léger, c'est facilement accessible. Et donc... Oui, parce que c'est vrai que le théâtre normal, il faut faire des dossiers, on répète pendant des mois, et finalement, il n'y a pas cette spontanéité, et c'est trop long, quoi. Comme, ouais. Pour moi, c'était trop long. J'avais trop envie de raconter des choses et tout ça.
Oui, tu avais un besoin d'aller, d'aller sur scène, délivrer un peu ton message, entre guillemets.
Oui.
Giorgia, qui est présente avec nous ce soir, comédienne italienne, donc reprend ton spectacle, donc Comment épouser un milliardaire à la nouvelle scène actuellement. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, je crois, oui, jusqu'à fin juin. Donc c'est suite à la publication du texte du milliardaire. Comment, puisque le texte a été publié aux éditions Fayard en 2015, si je ne me trompe pas. Donc on l'a dit en Allemagne, en Hollande, en Grèce, en Italie, en Corée, au Japon. Comment elle s'est fait la connexion entre vous deux, et comment tu l'as vécu, ce fait que le fait que ton texte voyage comme ça d'un pays à un autre et de passer le flambeau à une nouvelle comédienne?
J'étais très heureuse que Giorgia le reprenne en Italie. Je suis allée à la première et c'était très beau. J'ai beaucoup pleuré. Et après. Moi, comme ça fait 10 ans que je le joue, là, je commence à avoir du mal à l'actualiser. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage de plus avoir cette foi. Et maintenant, l'alerte Google sur les milliardaires, ça me saoule un peu. Et...
Oui, parce que tu t'es créé une alerte Google sur les milliardaires pour pouvoir recevoir les actus en temps réel.
Tous les vendredis, j'ai ma petite liste de trucs. Et parfois, je suis dans l'alerte Google sur les milliardaires. Et j'ai une espèce de coup au cœur. J'ai l'impression d'être milliardaire pendant une seconde. Je suis là, oh, je suis dedans. Non, en fait, non. Mais ouais, c'est assez marrant. Et donc...
Du coup, vous avez travaillé ensemble sur l'adaptation du texte. Comment ça s'est passé?
Giorgia, viens. Viens raconter comment ça s'est passé.
Bonjour. Non, mais reste. Reste assise. T'es quand même enceinte. Assis-toi. Non, pas du tout. Bon, ok. Je me sens un peu coupable. Bonjour.
Alors Giorgia, toi, comment tu as découvert ce spectacle et du coup, comment s'est faite la passation entre vous deux?
Alors, ça s'est passé d'une façon assez magique, dans le sens que moi, j'ai vu le spectacle à Avignon il y a 2 ans. Je suis absolument tombée amoureuse de ce spectacle, de Dre, de tout. Et j'ai dit, mais je veux faire ça. Donc, je lui ai proposé de le reprendre. Elle a été complètement, comment dire, folle ou généreuse ou confiante. Elle m'a dit oui, donc je l'ai adapté, produit, traduit en Italie pour le faire dans un très beau théâtre qui est le Franco Parenti di Milano, et ça a très bien marché là-bas. Après, moi je voulais commencer, disons, une tournée, une vraie production en Italie, et j'ai pas eu le temps parce qu'Audrey m'a dit, est-ce que tu veux le reprendre en France? Moi j'habite à Paris, donc j'ai dit oui. Et disons que si sur la traduction italienne, j'avais travaillé plutôt seule parce que c'était de la traduction et de l'adaptation sur une réalité italienne, quand on a refait le passage sur la France, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais son texte français, qui était quand même le texte de référence, mon texte italien, duquel je prenais des petites choses, et toute l'actualité. Donc l'actualité, c'est un peu le travail que Audrey elle a fait pendant 10 ans, et sur lequel m'a donné carte blanche. Mais après, à chaque fois que je rajoutais des choses, on se confrontait. Mais disons que j'avais peut-être ce regard de nouveau qu'elle dit, elle était un peu fatiguée. Ou moi, à chaque fois que je voyais un alerte Google avec un milliardaire qui avait fait des trucs horribles, je faisais « Mais Audrey, mais ça c'est horrible, il faut en parler !» Et elle disait « Oui, oui, vas-y !» Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai, comment dire, sur la matrice d'Audrey, j'ai rajouté des choses et
spectacle, il résonne aussi fort en Italie, enfin avec l'actualité, avec ce qui s'y passe là-bas.
Alors oui, après c'est intéressant parce que la situation des inégalités, bien sûr, c'est une situation globale, mondiale. Donc c'est pour ça aussi que parfois j'avais un peu des problèmes de légitimité. Je disais, est-ce que je peux, moi, en tant qu'Italienne, parler à des Français sur l'actualité française, européenne? Je me disais, peut-être pas. Mais en fait, c'est vrai que c'est un thème qui est mondial. Donc il n'y a pas vraiment de différence, comme Audrey disait, entre la Corée, l'Italie, et surtout entre l'Italie et la France. Il n'y en a pas d'énormes. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des différences comme sociologie des milliardaires. Donc en France, il y a des milliardaires qui sont très, très riches et qui, la richesse, elle est très concentrée. Oui. Donc c'est Arnaud, Pinault, Bettencourt, etc. Et c'est des figures très importantes et très précises. Alors qu'en Italie, il y a des familles, donc à part Berlusconi, que tout le monde connaît, qui est un milliardaire, il y a des familles qui sont des familles qui sont beaucoup liées au monde de la mode, de l'industrie. Genre, par exemple, Barilla, c'est des milliardaires, toute la mode, Dolce Gabbana, Armani, etc. Donc, c'est intéressant, c'est un peu plus glamour, et on a l'impression qu'ils sont un peu moins méchants. Alors que c'est pas forcément vrai, parce que si on va fouiller après comment les fringues sont produites, comment les choses sont faites, pour devenir milliardaire, il faut se salir un peu les mains, quand même.
Il y a Benetton aussi qui possédait le pont de Gênes qui s'effondrait.
Oui, il était actionnaire de ce pont, c'est vrai.
Est-ce que vous vous retrouvez toutes les deux sur votre engagement, même si toi tu parles pas d'engagement,
Alors moi, j'ai pour
est-ce,
la petite.
Est-ce que toi aussi tu montes sur scène pour dire des choses? Enfin, tu ne montrais pas. Bah, si moi, tu n'avais rien à dire, tu ne montrais pas sur scène.
Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai un passé de petite fille, parce que petite fille c'est pas le mot, mais de adolescente, petite fille adolescente engagée. Mm-hmm. Après j'ai commencé à être comédienne, et c'est comme si j'avais un peu cru à cette histoire que pour être comédienne, il faut pas parler de politique, il faut pas exprimer trop d'idées, surtout si t'es une femme et t'es un peu jolie.
Oui.
C'est mieux
ça,
de
c'est le cliché
c'est mieux de pas trop
exprimer. Il vaut mieux parler d'idées de crème de jour que
voilà. Et donc c'est vrai que j'avais en intérieur de moi je suis fille de syndicaliste, donc j'ai un passé, j'ai une histoire familiale comme ça, et donc je sentais à l'intérieur de moi une espèce de truc où je disais, mais en fait je me reconnais pas complètement, j'adore jouer, j'adore faire du Racine ou du Shakespeare, mais il y a un endroit où il me manque un truc. Et je le cherchais. Et c'est pour ça que quand j'ai vu son spectacle, je suis tombée amoureuse. C'est parce que, sincèrement, j'ai dit, ah ouais, mais c'est ça. En fait, c'est faire rigoler les gens, c'est les entretenir, et c'est de parler de politique aussi. Donc pour moi, ça a été une évidence quand j'ai vu son spectacle. Et donc, ça a mis en place plein de choses qui étaient importantes pour moi, et dans lesquelles je me reconnais et je me retrouve absolument. Mais ça a été un chemin différent, je pense.
D'accord. Donc tous les jeudis à 19h45 à la Nouvelle Scène, dans le 5e, pardon, jusqu'à fin juin, évidemment, et après à Avignon.
À côté de Notre-Dame qui vient d'être reconstruite par des milliardaires.
Merci Georgia.
Merci à vous.
Alors, on n'a pas tout à fait fini, mais merci à elle. Donc, la passation se fait. Tu es triste de le laisser, ce spectacle, Audrey? Mais même si tu as d'autres combats qui sont arrivés par la suite. Tu t'es attaqué donc à Marx et Jenny, on l'a dit tout à l'heure, et donc Karl Marx. Ensuite, tu as eu t'as écrit un très joli spectacle qui s'appelle Fukushima, dans lequel tu t'attaques à la tragédie donc de Fukushima, à la catastrophe nucléaire et l'écologie. Jusqu'où tu vas aller ? Il y a des combats qui t'attendent encore. Enfin, t'es en train d'écrire un nouveau spectacle là en plus, je crois.
Ouais, là j'écris un nouveau spectacle qui s'appelle Chair à canon, qui parle de l'État. C'est un peu un spectacle gilet jaune. Enfin, disons que j'avais les mêmes questions sur la démocratie et tout que les gilets jaunes. Et donc c'est l'histoire d'une femme enceinte qui parle à son bébé qui va naître et qui lui explique le monde dans lequel il va naître. Normalement, je veux faire la première le 25 mai à la Nouvelle Scène, mais pour l'instant j'en suis à l'étape où c'est une logorée anticapitaliste sordide et pas du tout drôle. Donc il me reste un mois, je sais pas du tout si je vais y arriver. Donc là je suis un peu désespérée. J'ai pas trouvé le petit déclic, genre la robe de mariée, pour faire en sorte que ce soit pas juste du sous-az. Et ouais, j'ai pas trouvé encore, donc voilà. Je fais ça. Je suis très heureuse de le laisser à Georgia. Je fais la dernière le 4 mai à Loudun. Et voilà. Alors après, je sais pas, parce que comme je l'ai quand même joué presque tous les jours, voire toutes les semaines, pendant 10 ans, il n'y a pas eu un mois pendant lequel j'ai pas joué. Je sais pas du tout comment ça va être la dernière fois où je vais dire, parce que dans le spectacle, je commence en disant, ce soir, c'est la dernière fois que je monte sur une scène, demain, je me marie. Et le 4 mai, ça va être vraiment la dernière fois que je prononce cette phrase que je prononce depuis 10 ans. Et à la fin du spectacle aussi, je dis, voilà, à partir de demain, je ne vous verrai plus, vous allez me manquer. Donc, je ne sais pas si je vais chialer ou pas.
Il y a des chances.
Je ne sais pas, on va voir. Mais ce serait marrant. Ouais, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si ça va me manquer. Je ne sais pas, on verra. Non, je ne pense pas. À mon avis, je vais l'oublier tout de suite. Je pense que mon cerveau va l'effacer complètement. Je pense.
Oui, puis en plus, si tu as un spectacle dont tu n'es pas encore totalement contente derrière qui arrive, sans vouloir te mettre la pression, bien sûr. Je terminerai cette masterclass avec une dernière question. Donc voilà, on parle de spectacle engagé, on parle de prise de position, de prise de parole. Quel regard tu portes sur la scène humoristique actuelle ? Est-ce que, alors humoristique seul en scène, hein, bien sûr, on élargit One Man Show. Est-ce qu'il y a assez d'engagement aujourd'hui ? Ou est-ce que les gens ne prennent pas assez position à ton goût ?
Moi, je trouve que la scène, elle est assez enthousiasmante, en tout cas dans le domaine humoristique. Déjà, il y a une grande diversité sociale et ethnique qu'on ne retrouve pas forcément ni au théâtre ni au cinéma. Donc ça, je trouve ça intéressant. Les sujets politiques sont beaucoup abordés, plus qu'au théâtre traditionnel. Non, je trouve qu'il y a... J'ai l'impression que c'est là que ça se passe aujourd'hui.
Ouais. Il y a des gens dont t'admires un peu le travail, qui prennent des positions politiques fortes. Je pense à quelqu'un comme Océan, par exemple.
Après,
même Blanche Gardin, d'ailleurs, hein, à sa manière.
Ouais, moi, je suis plus admirative des gens qui font vraiment rire, quoi.
Ouais.
Parce que c'est un peu là que j'ai un peu du mal, moi.
Il n'y a aucune vanne dans ces spectacles, donc...
Donc, j'adore Blanche, Océan, Bounaïmin, Yacine Bellous. J'ai beaucoup d'amis, comme j'ai fait beaucoup de festivals et tout ça, j'ai beaucoup d'amis maintenant là-dedans, et je trouve que ce qu'ils font, c'est super. Donc allez voir des stand-up et des one-man shows. Il y a des gens super dedans.
Ouais, et puis la prise de parole en stand-up, elle est forte en ce moment, et je pense que c'est bien de le souligner, surtout dans un endroit comme ça, comme la BPI, de dire que oui, c'est un milieu où il se passe des choses et où on dit des choses sur scène, et c'est pas forcément tout le temps le cas dans le théâtre plus conventionnel, même si évidemment il y a des spectacles très bien, hein, mais bon, là on prêche un peu pour notre paroisse, je pense, mais voilà, on peut que vous encourager à aller voir des spectacles d'humour pour rigoler et réfléchir. Je pense qu'on va clôturer là la masterclass, et peut-être voir s'il y a quelques questions dans le public, si vous avez des envies de demander des précisions.
Ah bah oui, il faut en profiter, c'est le moment, elles sont là. Et ça fait partie, en plus de la soirée, d'interagir avec le public. Je sais que la première coûte.
Ouais, la première est toujours un peu...
Il faut se jeter.
Est toujours un peu difficile. Est-ce que parmi vous, déjà, vous connaissiez tous le travail d'Audrey ou qui par... Alors, j'ai envie de faire un peu comme les stand-uppers. Qui, par applaudissement, a déjà vu les spectacles d'Audrey Vernon ici dans la salle? Ah oui, donc... lesquels, alors? C'est... Alors, Caroline? Alors oui, on n'a pas tellement parlé. Du coup, j'ai pas diffusé. On avait préparé un extrait de Fukushima, une légende japonaise. On peut peut-être le diffuser, effectivement, pour vous donner une idée de l'autre travail d'Audrey avec le syndicaliste, ex-syndicaliste Xavier Mathieu, qu'on a pu voir dans le film La loi du marché, d'ailleurs, avec Vincent Lindon. Vincent Lindon, qui est comédien assez engagé, que je crois que tu aimes beaucoup. Si on peut lancer la vidéo et puis après en reparler.
Est-ce que nous avons quelque chose pour l'âme des animaux morts? Je regarde un plan d'urgence. Je ne sais pas si je dois chercher à âme ou à animaux. Âme, j'ai quelque chose. Âme des réacteurs, appelée aussi cœur du réacteur. La perte de l'électricité a engendré la perte du cœur des réacteurs qui ont fondu et se sont transformés en corium.
Qu'est-ce que c'est?
C'est la matière la plus dangereuse de l'univers. Une matière qui n'existe qu'en cas de catastrophe nucléaire majeure.
Pourquoi ça s'appelle corium?
C'est un néologisme. C'est l'industrie nucléaire qui l'a inventé. Ça vient du mot cœur, avec le suffixe ium. Ça fait scientifique. Corium, c'est du cœur fondu.
C'est tout bête.
Le corium est une lave extrêmement dense, chaude, hautement radioactive, qui peut faire fondre tout ce qui se trouve sous lui. Nous n'avons pas un corium, mais trois coriums qui percent le cœur actuellement sous les trois réacteurs. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne peut pas s'approcher. Quiconque s'approcherait serait mort en quelques secondes. Il faudra des dizaines d'années pour que la chaleur du corium diminue. Actuellement, il doit être entre 2500 et 3000 degrés. La lave, pour vous donner un ordre d'idée, est autour de 1000 degrés. La lave refroidit à l'air. Le corium, non. Mais ne vous inquiétez pas, nous l'arrosons.
C'est un extrait que moi j'aime beaucoup parce que tu... Voilà, tu expliques ce que c'est que ce corium, qui a un très joli mot, qui a une très jolie sonorité, pour quelque chose de totalement horrible, en fait, puisque c'est la matière la plus mortelle qui existe sur cette planète. Et là, on voit effectivement le travail sur les mots, sur la recherche, sur faire entendre ces mots-là, et puis surtout essayer d'en rigoler, quoi. Enfin, tu l'avais vraiment cherché comme ça, enfin, sur ce texte-là en particulier, où il y a énormément de termes techniques, en plus.
Bah, Fukushima, c'est un spectacle... que j'ai écrit, oui, à base uniquement de matériel technique, et je me suis basée sur tous les rapports d'accidents de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection de Sécurité Nucléaire, parce qu'ils ont sorti tous les rapports, et j'ai lu beaucoup de rapports de l'accident, et en lisant les rapports de l'accident, en fait, je me suis rendu compte que c'était très drôle, parce que c'est quelque chose d'assez banal. Par exemple... Enfin, la catastrophe nucléaire a un côté de truc de bébé. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec des jouets, parce que ça ressemble à un truc d'enfant. Ils ont arrosé le cœur des réacteurs avec des hélicoptères. Le côté bricolage, en fait, a apporté beaucoup de drôlerie. Par exemple, ils ont été obligés, pour récupérer les mesures du cœur du réacteur, de brancher en série les batteries des voitures qui étaient sur le parking de la centrale. Donc, une fois que la catastrophe est arrivée, on s'aperçoit que les êtres humains n'ont que des solutions de bricolage complètement absurdes. Et vraiment, la drôlerie est venue de ça, du fait que, bah déjà, que tout le monde a menti en disant que c'était, qu'il y avait des protocoles, que tout était sous contrôle, etc. On se rend compte, une fois que la catastrophe arrive, qu'en fait, personne ne sait rien. Et oui, il y avait un autre truc que je trouvais assez marrant aussi, c'est qu'il y avait, j'ai traduit des discussions entre le premier ministre, la direction de TEPCO et les gens et le directeur de la centrale. Il y avait des discussions à trois comme ça, et où ils se demandaient tous où était le protocole en cas de perte du cœur du réacteur. Et en fait, ils disent, mais en fait, il y a pas de protocole parce que la perte du cœur du réacteur n'a jamais été envisagée. Et donc, les gens disent, bon, bah, trouvez-la et envoyez-la nous par email. Et il y a un côté complètement où on sent que tout à coup, il n'y a plus aucun protocole. Ils sont obligés d'utiliser des lampes torches pour aller dans les bâtiments détruits pour retrouver les plans de câblage de la centrale. Et puis aussi, au début de l'accident, ils sont tellement persuadés que les systèmes de refroidissement de secours se sont mis en marche que personne ne peut penser. Et en fait, ils mettent 10 heures avant de se rendre compte que les systèmes de secours ne se sont pas mis en marche. Et donc, c'est un très beau sujet. J'ai beaucoup aimé travailler sur... Ça n'aurait pas été vrai, ça aurait été mieux. Et puis, en travaillant dessus aussi, ça m'a un peu désangoissée parce que je me suis rendu compte que c'était que ça aussi, une catastrophe nucléaire. Enfin, peut-être je suis pas claire, mais... Enfin, c'est une fois qu'on comprend comment ça se passe et quel est le cheminement et quelles sont les conséquences aussi... par exemple, il y a dans les conséquences que j'ai trouvées assez folles, c'est que ils ont augmenté les normes. Par exemple, la norme pour le lait infantile, ils l'ont augmenté. Ils avaient droit, je crois, c'était 1000 becquerels par kilo. Enfin, je me souviens plus du chiffre exact. Mais ce qui avant était considéré comme un déchet nucléaire qui devait être traité est devenu la norme pour le lait infantile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Ça a l'air compliqué.
Non, mais en fait, c'est. Ouais. Ok, voilà. Ouais. C'est ils ont juste changé le.
Elle a compris. Oui, mais c'est enregistré.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu as un des spectacles préférés parmi tous ceux que tu as écrits, parce que c'est tous tes enfants, on va dire. Mais est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as un peu plus de tendresse que les autres ?
Bon, en général, c'est celui que j'ai pas joué depuis longtemps.
Donc, du coup, c'est celui-là.
Ouais, mais là, en le revoyant, je me dis, ah, j'aime bien, je le rejouerai bien.
D'accord. Je sais pas si, donc, il y a entre cet extrait, peut-être une question qui est venue dans l'esprit de quelqu'un parmi nous. Franchement, n'hésitez pas, hein, Audrey est là pour répondre. Donc bonjour.
Bonjour. Je voulais vous demander, enfin, quand vous avez rencontré Pino, mais pourquoi vous lui avez pas demandé comment elle a fait Salma ? Parce que je sais que Salma, enfin, elle a réussi.
Ouais, elle a épousé un milliardaire.
Bah ouais. C'est elle qui a les réponses.
C'est vrai. J'étais un peu intimidée, j'ai pas trop osé dire grand chose.
Ouais. Non, c'est juste pour commencer.
Merci. On a avec nous ce soir Jessie Varin, qui est la directrice artistique de la Nouvelle Scène, qui suit le travail d'Audrey depuis le début, quasiment. Jessie, moi j'avais envie, peut-être aussi pour lancer un peu la discussion avec vous, que tu nous dises un peu... Pourquoi c'est important de faire venir quelqu'un comme Audrey Vernon dans ta péniche, qui est par ailleurs un très très beau lieu de spectacle, et je vous invite vraiment vivement à y aller parce qu'il y a une programmation super. Voilà, pourquoi c'était important pour toi de faire venir une comédienne comme Audrey, et auteure, comme Audrey dans ta programmation ?
Déjà, c'est, je sais pas, notre rencontre, elle est assez fortuite parce que je connaissais pas vraiment son travail avant de la rencontrer, elle. Je crois qu'elle a été très inspirante. Et puis, il y a un petit truc qui est assez drôle. Je me souviens de la première soirée d'inauguration de la péniche de la Nouvelle Scène où il y a un petit discours de la part de mon associé qui a investi beaucoup d'argent pour qu'on crée ce magnifique lieu et qui remercie notre banquier en premier lieu. Et que juste après, je monte sur scène pour lancer le spectacle d'inauguration. Et ce spectacle d'inauguration, c'est Marx et Jenny, qui parle de... Donc, on en a parlé tout à l'heure de l'amitié de Karl Marx et d'Engels. Et ça parle de tout ça. Et déjà... À ce moment-là, pour moi, on avait créé le début de notre collaboration artistique. Ce que j'ai aimé chez Audrey, c'est qu'elle me fait autant rire que pleurer. Et juste pour rebondir sur la discussion qu'on a eue sur comment épouser un milliardaire, ce qui m'émeut encore énormément avec ce texte et ces mots, c'est qu'en fonction du mood dans lequel on se trouve, en fonction des actualités qu'on peut lire, il prend un sens et une émotion toute particulière. Je me suis déjà mise à pleurer vraiment d'une vraie émotion, peut-être de désespoir sur ce monde capitaliste, et puis d'autres fois à être vraiment sur des éclats de rire absolument spontanés et d'être absolument fan de comment son esprit a réussi à créer ce spectacle aussi intelligent et drôle, quoi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la force d'Audrey, quoi. C'est qu'elle fait autant rire que pleurer, et je trouve que son esprit, sa manière d'écrire, sa manière de présenter tout ça est d'une grande intelligence. Et c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui sur les comédiennes. Alors, je dis comédiennes parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui présentent leur spectacle à la nouvelle scène, et je crois que c'est pour ça que naturellement j'y vais un peu plus, parce qu'il y a cette double sensibilité, je trouve, d'auteur, de texte, d'interprète, et c'est retrouver ça. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Osana, c'est vrai que moi aussi j'ai créé un lieu qui est une tribune libre pour que les gens puissent dire des choses, et que en fait cette tribune, pour moi, elle est un peu sacrée, et que on a besoin de donner du sens à ça. Donc faire rire, c'est bien, faire rire et réfléchir, c'est encore mieux. Et je sais plus où je voulais en venir par rapport à tout ça, mais par rapport au pouvoir des mots, encore une fois, si on reprend la thématique que Caroline a développée ici, c'était voilà comment trouver des textes qui font et que l'humour est un vrai vecteur de dénonciation et de et c'est au début, moi aussi, j'avais quelques préjugés, notamment sur l'écriture un peu humoristique, où je me dis, faire rire, voilà, il manque quelque chose. Et puis, en fait, quand on découvre toute cette nouvelle scène, en plus, humoristique, de stand-up, et ben, en fait, non, il y a une vraie dimension et politique et sociétale et sociologique. Et c'est vraiment une nouvelle fenêtre pour moi de prise de parole sur le monde qui nous entoure. Et en tout cas, j'essaye de, au quotidien, présenter des spectacles qui ont un peu cette veine-là, quoi.
Et voilà. Il y en a beaucoup, je trouve, en ce moment, et beaucoup chez toi. Donc, n'hésitez pas à aller à la nouvelle scène. Je ne sais pas si d'autres questions, peut-être. Ah oui, là-bas. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis comédienne, je suis espagnole. Et je suis en admiration. Je me demande si il y a déjà une version espagnole, ou il va y avoir une version espagnole.
Oui, on crée des spectacles ici.
Mais non, pas encore. Je peux vous donner le texte avec plaisir.
Franchement, ça donne énormément envie.
Super.
Est-ce que vous connaissiez le travail d'Audrey? Donc,
Oui. Je connaissais, mais je ne l'ai jamais vu en théâtre. Je l'ai vu sur Internet, en fait. Mm-hmm. Sur YouTube, je l'ai vu son passage à texte, mais j'ai vu des parties de son spectacle, mais on ira les voir ensemble.
Super.
Ouais. Il n'a pas été traduit en espagnol, le livre.
Il n'a pas été traduit en espagnol. Bon, j'adorerais qu'il soit joué en espagnol. Trop bien. Vous aimez les robes de mariée, j'espère.
Et l'autre question, c'est, est-ce que vous avez étudié quelque chose pour écrire? Est-ce qu'il y a, vous avez fait quelque chose avec la dramaturgie? Est-ce qu'il y a, parce que bon, je trouve que quand même arriver à faire rire avec des sujets si touchants, c'est, moi aussi j'ai une famille syndicaliste, etc. en Espagne. Donc, moi aussi, il y a des choses qui me font rire, qui ne sont pas rigolotes, mais qui me font rire à moi. Et que je me dis, ça ne sera pas drôle dans un spectacle, parce que c'est terrible que ça arrive. Mais bon, vous l'avez fait. Donc.
Oui, j'ai été beaucoup aidée. J'ai travaillé avec une dramaturge qui s'appelle Nathalie Co. J'ai travaillé avec des metteurs en scène. Dernièrement, avec Michael Chérignan. J'ai travaillé avec pas mal de gens, quand même, qui m'ont aidée. J'ai eu beaucoup de regards extérieurs qui m'ont aidé à transformer les choses qui étaient un peu tragiques en choses drôles. Mmh. Et c'est vraiment le travail qui a été le plus difficile à faire, c'est ça. Et je suis contente d'avoir réussi sur Comment épouser un milliardaire sur Fukushima, Voilà, là, je galère un peu plus sur Chair à Canon. Donc, priez pour moi.
Non, mais vous allez réussir, il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Je n'ai pas des doutes. Je vais venir après.
Je vais vous donner mon mail, comme ça, oui. Je vous enverrai le texte.
Super.
C'est vrai que certaines idées arrivent en dormant. C'est ce que, par exemple, la robe de mariée, c'est arrivé en dormant ou... Ah non, c'est arrivé parce que tu passais devant une boutique tous les jours.
Ouais, en dormant, je trouve plein de trucs et après, parfois, j'ai la flemme de les noter et je suis désespérée parce que le matin, je me dis « Ah, mais c'est sûr, hier soir, c'était la meilleure idée du monde et je ne la retrouverai plus jamais. » Et je me souviens, dans le spectacle, il y a une phrase, à la fin, je dis « Ça va me manquer d'être pauvre, passer l'été à Center Park, l'hiver dans une boule à neige. » Et ça, je me souviens que l'hiver dans une boule à neige, c'était une phrase que je trouvais très belle et que j'ai trouvée la nuit et je l'ai notée. Et puis voilà, et puis sur Chagrin d'amour aussi, il y a une phrase, la dernière phrase du spectacle, c'est je dis, il est où mon amour, il est passé où mon couple. Et la dernière phrase du spectacle, c'est il est au paradis des couples et il est plus heureux là-bas. Et cette phrase-là, je l'ai notée sur... sur la nuit, pareil aussi, sur un livre, et c'était le livre de la psychologue qui est décédée en fait dans les attentats de Charlie Hebdo, et donc ça m'a fait c'est idiot, mais parfois il y a des phrases du spectacle qui viennent à des moments un peu incongrus, et puis quand j'ai retrouvé ce livre et que j'ai vu que la dernière phrase du spectacle était notée dedans, Ça m'a fait bizarre, en fait. Je me suis dit, c'est étrange, c'est un peu bête, mais voilà.
Chagrin d'amour, c'est un spectacle qui est un peu différent des autres, parce que c'est vraiment un spectacle sur le chagrin d'amour, hein, donc voilà, mais qui met à la fois des icônes de la pop culture et comme Jennifer Aniston qui jouait dans Friends, mais à la fois des grandes divas, Maria Callas ou Dalida, qui ont eu des histoires d'amour absolument tragiques. Tu l'as peu joué aussi, celui-là, mais il est assez rêvé. Enfin, je trouve qu'il y a toujours ce truc très particulier chez toi qui est de comme disait Jessie, de faire à la fois rire et pleurer de manière presque inconditionnelle. Enfin, comment tu l'as écrit ?
Chagrin d'amour, je l'ai écrit. J'ai fait beaucoup de recherches sur le deuil, etc. J'ai pris beaucoup de notes. Et puis après, Jessie m'a proposé une date, un 14 février. Elle m'a dit, tu veux pas faire une carte blanche ? Et donc, je me suis dit, ah ouais, ça peut être cool. Et donc, on a créé le spectacle à la Nouvelle Scène le 14 février avec Thomas, qui est là. C'était techniquement très, très compliqué parce qu'il y a des 90 voix off, des vidéos et tout ça. Et je me souviens qu'on était, presque en larmes le matin devant l'ampleur de de l'espèce de barnum que j'avais créé. Et on s'est dit, non, mais c'est sûr, si ça ne marchera jamais. Enfin, il y a un truc qui va péter, un VP qui va péter, un projecteur qui va péter. C'était horrible ce matin, tu te souviens ? C'était horrible. Oh, quel cauchemar. Et donc, je trouve que c'est une alchimie chouette de prendre un truc triste et de le rendre drôle.
Ce qui est aussi un peu le cas, finalement, avec Le Milliardaire et avec Fukushima. De prendre des catastrophes naturelles, nucléaires en l'occurrence, sur Fukushima et les inégalités sociales aussi dans Le Milliardaire.
Oui, parce que c'est vrai que j'ai envie de parler de sujets tristes, mais en même temps, j'ai pas envie que les gens se jettent de la péniche dans la Seine. Donc, il faut trouver un peu des subterfuges.
Une autre question du public, peut-être ? Oui, là-bas.
Je me suis emparée du micro. Je suis très intéressée par le nucléaire et c'est vrai que je ne connais pas votre travail. Et ça m'a fait penser aussi à un spectacle que j'ai vu, mais qui est peut-être le contre-pied du vôtre, Bruno Messa, je ne sais plus, X millisieverts. Je ne me rappelle plus le chiffre exact.
D'accord.
Non.
Je ne connais pas ce spectacle.
Et du coup, comme c'est un sujet extrêmement profond, je voulais savoir un petit peu... par quel biais vous disiez bricolage, vous arriviez à faire rire les personnes. Enfin, comment ça s'est passé, ça, ce bricolage ?
Disons que la tragédie de Fukushima est tellement absurde et tellement... Enfin, prévisible. Parce que tout... Mais d'ailleurs, c'est la même chose en France. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que ça fonctionne, mais ça peut ne plus fonctionner à n'importe quel moment. C'est hyper fragile. Comme quand on se rend compte de la fragilité. C'est-à-dire, il suffit qu'un réacteur ne soit pas alimenté ou en eau ou en électricité pendant 3 heures pour qu'il y ait une catastrophe nucléaire majeure. Donc rien que le concept, 3 heures, c'est vraiment très très court. Et le bricolage, c'est vrai que c'est assez marrant de voir que, par exemple, ils se sont retrouvés face à un problème qui était que les camions de pompiers n'étaient pas... Ils ont utilisé les camions de pompiers pour arroser le cœur du réacteur, ce qui n'est pas du tout un protocole possible pour les camions de pompiers. Et donc, ils se sont retrouvés face à un problème qui était que les pompiers n'étaient pas autorisés à intervenir sur le cœur du réacteur, à intervenir dans l'enceinte du cœur du réacteur. Et les employés de Fukushima, de TEPCO, n'étaient pas habilités à conduire un camion de pompiers. Donc, en fait, ils se sont retrouvés face à ce problème-là. Et ils ont dû résoudre un problème administratif avant de pouvoir intervenir. Et puis, ils ont été obligés, par exemple, d'adapter. Il y avait des vannes, par exemple, des vannes électriques qui ne marchaient plus sans électricité, qu'on ne pouvait plus ouvrir sans électricité. Donc, ils étaient obligés de téléphoner aux gens qui avaient conçu ce système pour essayer de savoir s'ils pouvaient les ouvrir à la main, aux heures ouvrables. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses comme ça qui paraissent complètement... Ouais, complètement folle. Et tout à coup, les employés de Fukushima et le directeur de la centrale et le Premier ministre apparaissent vraiment comme des enfants qui ne maîtrisent plus du tout le jouet qu'ils ont fabriqué. Et c'est vrai que... Par exemple, dans le spectacle, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas envisagées, non pas parce qu'elles ne sont pas envisageables, mais parce que s'ils les envisageaient, ça coûterait trop cher d'adapter les mesures de sécurité, etc. Donc en fait, ils refusent d'envisager le pire en disant le pire ne peut pas arriver, parce que s'ils disaient oui, effectivement, ça peut arriver, ils seraient obligés de dépenser des milliards pour anticiper cette catastrophe. Par exemple, il y avait un truc aussi qui était assez, assez rigolo. Ils ont installé des parce que le problème, c'est que les générateurs diesel ont été emportés par le tsunami, donc les générateurs de secours qui pouvaient alimenter la centrale en électricité ont été emportés par le tsunami. Mais ils avaient prévu ça, donc ils avaient mis des générateurs électriques de secours en haut d'une colline. Mais le problème, c'est que les interrupteurs, ils les avaient laissés en bas, en zone inondable. Donc en fait, ils n'ont pas pu y avoir accès. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui.
Le public criait. Parce que du coup... Ah, le public criait.
Ouais. Le public criait et... Ouais.
Le texte a été traduit en japonais.
Non.
Non, pas le texte de Fukushima, le texte du milliardaire. Donc, oui, du coup, t'es un peu connu au Japon et il n'y a pas moyen de... Enfin, est-ce qu'on pourrait envisager une représentation de Fukushima au Japon? Non,
non,
c'est
je
complètement
crois que,
utopique.
À mon avis, oui. Je crois pas du tout que le sujet les fasse rire là-bas.
Ouais.
Mais d'ailleurs, non, je pense que ça ne les fait pas du tout rire.
Il y avait une question là-bas.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Juste une réflexion sur le titre, puisque il semble que vous avez mis un certain temps avant de vous fixer. Il me semble qu'il y avait un film comique de Marilyn, que c'était à l'époque, ça devait être plutôt comment épouser un millionnaire, parce qu'il n'y avait pas de milliardaire à l'époque de Marilyn, c'était choquant d'anticiper. Ça ne c'est pas ça. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas un lien entre les deux.
Oui, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le titre. Et comme je suis fan des films de Marilyn et que
c'est extra.
et c'est vrai qu'à l'époque, ils sont assez subversifs au niveau. Ils parlent vraiment des rapports riches-pauvres, par exemple.
Oui.
Je me souviens de la fin du film Les hommes préfèrent les blondes, où elle explique au père du milliardaire qu'elle va épouser que finalement, elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle et qu'il devrait souhaiter pour son fils. Enfin, elle a une réflexion super intelligente sur les riches et les pauvres. Et puis bon, évidemment, je suis fan de Marilyn Monroe, donc c'était un petit hommage. Et effectivement, à l'époque de Marilyn Monroe, il n'y avait pas vraiment de milliardaires, il n'y avait que des millionnaires. En 91, quand la liste de Forbes a été là pour la première fois, je crois qu'il y avait 11 milliardaires dans la liste. Donc c'était vraiment assez exceptionnel quand même. Oui. Il n'y avait pas beaucoup.
Très bien.
Les choses ont changé.
Ok. Je peux encore une dernière réflexion. J'ai aussi là une observation sur le fond. Parce que là, vous, apparemment, vous mettez en dehors de la pièce sur Jenny et Marx, vous mettez toujours Marx, comme le font tous les intellectuels qui se respectent dans ce pays. Vous le mettez à toutes les sauces. Hein. Quoique je me permets de signaler que ni en Russie, ni en Chine, ni en Europe de l'Est, partout on ne parle pratiquement plus de Marx. Même c'est devenu un sujet tabou. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a, comme qui dirait, un petit anachronisme. Parce que vos riches, là, on n'est plus dans l'idée, dans le schéma du 19e siècle. Il y avait des patrons, des grands patrons qui exploitaient des ouvriers à la chaîne. Bon, qui tirait la substance, la plus-value sur le dos des pauvres. Mais là, le panel que vous avez présenté, c'est des riches, en quelque sorte, qui exploitent d'autres riches. Ou alors, c'est des gens qui sont enrichis dans le commerce, dans les transactions immobilières, ou dans l'informatique, où il y a très peu de main-d'œuvre. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un petit hic là-dedans, entre l'idéologie que vous voulez transmettre et vos modèles.
Oui, mais si on prend par exemple Zara, qui est quatrième fortune mondiale, il exploite des milliards de pauvres dans les usines. Zara, c'est celui qui fabrique les vêtements. Il fabrique les vêtements. Et puis même quand on voit un type comme Bernard Arnault qui transporte ses marchandises de l'Orient à l'Occident, qui vend ses sacs Vuitton, qui sont des sacs en plastique vendus au prix du cuir, il exploite des pauvres aussi. Via par exemple les porte-containers de CMA-CGM qui est un milliardaire aussi qui est responsable d'une partie de la destruction de la planète. Je pense que quand même il y a quand même par exemple Steve Jobs, les usines de Foxconn qui sont les usines qui fabriquent les téléphones, c'est des camps de travail, c'est atroce, il y a du travail forcé. Ils kidnappent les étudiants à la sortie des facs quand il y a des périodes. Ou si on prend Amazon par exemple, Amazon, les conditions de travail elles sont
vraiment horribles,
sont un peu tendus.
Ouais. Effectivement.
Horrible, je sais pas, mais ouais, je pense que les catégories de Marx sont quand même assez parce que pour moi, il a pas inventé le communisme, il a inventé le capitalisme. Je pense que si notre époque s'appelle capitaliste, c'est parce qu'il a écrit Le Capital. Parce que le communisme existait avant Marx, alors que le mot le capital, il n'existait pas avant qu'il le rende populaire, et c'est lui qui a inventé des termes dans lequel les capitalistes pensent aujourd'hui comme plus-value, par exemple. Ça, c'est dans le spectacle Marx et Jenny. Je lis une lettre entre Marx et Engels dans laquelle Marx dit à Engels « Cet excédent, je l'appelle plus-value. » Et moi, j'adore cette lettre parce que je me dis « Ah, c'est génial, c'est là qu'il a dit plus-value pour la première fois. »
Je ne sais pas si ça répondait à la question.
Excusez-moi, je me permets d'intervenir. On ne va pas avoir un débat de fond sur l'économie.
Oui,
ce n'était pas vraiment l'idée de ce soir. C'était plutôt parler spectacle, écriture. Bah, du coup, comme j'ai le micro, maintenant je le garde. Hop.
Voilà.
Et je vais remercier très, très chaleureusement Rossana Di Vincenzo et Audrey Vernon pour cette table ronde vraiment passionnante. Je vous rappelle que spectacle est joué donc tous les jeudis à 17h45 à la Nouvelle Scène. Donc
19h45,
excuse-moi. À la Nouvelle Scène, voilà, c'est vraiment juste à côté. La première table ronde, c'était Sexpowerment. Et je vous rappelle aussi que c'est joué tous les mercredis et tous les jeudis. Là, c'est à 21h30. Vous pouvez même enchaîner les deux. Voilà, faire deux spectacles d'un coup. La table ronde de ce soir a été enregistrée grâce à nos régisseurs que je remercie chaleureusement. Vous la trouverez d'ici une dizaine de jours, ainsi que celle de Sexpo Harmont. La prochaine date, c'est le 27 mai, et on change un peu de registre. Ce sera avec des conteurs modernes qui collectent la parole et qui font des spectacles autour de femmes politiques. Et ce sera une rencontre avec une anthropologue absolument passionnante qui a travaillé sur les migrants et la parole des migrants. Donc voilà, on change de registre. Et la troisième date de stand-up, ce sera en septembre. Hein, donc voilà, ne nous oubliez pas. Et là, ce sera avec Laureline Kuhn, c'est toujours en partenariat avec La Nouvelle Scène. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes les deux, chaleureusement. Et donc le 27 mai.
Merci beaucoup d'être venus.